Le scénario de cette campagne est largement inspiré des romans de fantasy et des séries qui m'ont fait vibrer plus jeune et moins jeune. Donc, pour un public mature, vous êtes averti. Ouais, ouais, même toi là, qui se gratte l'intérieur du nez dans le fond, là, je t'ai vu. Bonne écoute. Je suis des sang-froid, Eric, et je m'amuse avec toutes ces belles personnes qui vont se présenter à vous.
Je suis NJ, et je vais interpréter Solomon, le frère commandant de l'Ordre de la Ronde Hache, et simple pion sur l'échiquier des rois de Babel.
Alors, je m'appelle Andréane, je serai Ygritte, une femme aussi sauvage que la meute de loups dans laquelle elle a grandi, à l'image des armes de guerre de Babel, froide, solide et difficile à manier.
Je suis Christophe de la chaîne Pilule Rouge JDR et l'interprète du père Guilhem de Basquerbourg. Du moins, ce qu'il en reste, car maintenant je suis autre chose. Je suis noirceurs et corruption, prisonnier de ma propre chair. Que les défunts me viennent en aide.
Je m'appelle Danny, alias Radburger, et j'incarne Cal Shadim, capitaine dans l'armée Mézoène.
Je n'ai qu'un seul but, c'est de protéger les êtres chers, malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais ma rencontre avec un enténébreur, ces magiciens profanes, a tout remis en question. Maintenant, je ne peux me fier qu'à une seule chose, ce sont mes fidèles cimetières.
Moi c'est Thomas, je vais interpréter Kenan Karaman, fils de Beryn Karaman. Je n'ai rien préparé en fait, d'ailleurs je ne savais même pas comment présenter mon personnage en une ligne. C'est un personnage tellement intéressant et abouti qu'il ne pourrait se résumer en seulement une ligne. Désolé pour les autres.
Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Précédemment, dans les Chroniques de Babel, alors qu'il vogue vers les îles de fer en compagnie de Kenan et Ygritte pour y disputer un duel judiciaire, le frère Solomon apprend par Mali, un loin voyant enchaîné au mât principal, qui est l'être derrière ses malheurs depuis ses 13 ans. En effet, plusieurs fois l'on a intenté à la vie du frère de la Ronde Hache. Pour l'instant, Solomon n'a qu'un nom, l'Empereur Mort, car Mali ne semble pas désireux d'en dire davantage, comme s'il était effrayé. À l'aube, une cloche d'alerte retentit sur le bateau La Marée Rouge, un autre navire ferné en vue, à l'apparence étrange. À Nippur, sur la côte de Mézo, le capitaine Cal Shadim a repris conscience pour découvrir qu'il était séquestré dans un sous-sol par le conseiller enténébreur du roi, Moon. Zifa, le précepteur de Kenan, semble être son apprenti. Et dans ce qui a toutes les allures d'une salle de torture, Cal n'est pas seul. Un homme du Dominion est lui aussi enchaîné à une table.
Chapitre 1. La mort, diront les optimistes, n'est qu'un début.
C'est Moon dans une pièce, pareille à celle qui regroupe les instruments de torture, mais quasiment vide. Il s'approche d'une table recouverte d'un tas de vêtements en lambeaux et souillés de sang. Il entreprend de les fouiller et il en sort un rouleau tacheté de sang. Il ouvre la lettre et commence à la lire. Il s'agit de la lettre que Kenan a écrite et remise à Cal avant d'embarquer sur le navire La Marée Rouge. Moon considère la lettre.
Cal, nous n'avons jamais pu réussir à nous comprendre et nous n'y parviendrons sûrement jamais. Et j'en suis désolé de cela. Tu es là l'image de mon père, aveuglé par la guerre et les batailles. Je ne partage pas cette vision. Est-ce d'ailleurs cela qui t'a poussé à aider celui qui a détruit la vie de mon père, ce Solomon ? Malheureusement, mon précepteur bien-aimé, Zifa, n'a pas eu le même traitement de ta part. Je viens d'apprendre des autorités, comme je m'en doutais, que c'est bien toi qui l'as tué. Sans doute dans l'idée de venger la mort de mon père, j'ai cependant beaucoup de mal à penser que Zifa ait pu commettre un tel crime. Et je t'en voudrais toute ma vie de ne pas lui avoir offert un procès digne de ce nom pour pouvoir s'expliquer et sans doute s'innocenter. Tu as juste réfléchi avec ta rage de toujours. Et je ne t'en veux pas pour cela, c'est ton caractère. Mais je te demande de ne plus m'approcher et de me laisser à présent tracer ma propre route, loin de toute cette folie guerrière qui est dans notre temps. Le monde change et tu fais pour moi partie des vestiges du passé. Un passé qui ne ferait qu'entraver mes pulsions culturelles et ma curiosité de m'ouvrir au monde et aux dimensions qui s'ouvrent à moi. Je sais que tu as dû faire une promesse à mon père de me protéger, mais ne t'inquiète pas pour moi. Je saurai m'entourer et me protéger grâce aux enseignements de ta victime, Zifa. Alors, adieu mon oncle, et ne m'approche plus. Oh mon Dieu, j'ai de l'émotion rien qu'en m'écoutant. Vous aussi, ça vous a donné une petite gueule ou c'est juste à moi?
Ah ben écoute, moi je suis en PLS sur le côté et je chiale ma vie. Je chiale littéralement ma vie. À peine un mince sourire déforme les lèvres de Moon alors qu'il replie la lettre. Il avance vers l'âtre de la cheminée et y jette le rouleau. La prise de vue de la caméra est positionnée dans l'âtre. À travers les flammes, en contre-plongée, on voit Moon. Son sourire s'élargissant. Donc, la lettre que t'as remis, Kenan, avant d'embarquer, Cal, que tu n'as pas lu, que tu as mis dans tes vêtements, Moon vient de l'avoir lu. On y va avec une autre scène qui se nomme C.J. Père Guilhem de Baskerville.
Commence bien.
Ouais. Ton cerveau s'éveille avant ton corps, Père Guilhem. Tu sais que tu es réveillé, mais ta chair refuse d'obéir aux injonctions que lui ordonne ton esprit. Puis, lui aussi, ce corps de 55 ans revient vers un état de conscience. Tu ouvres lentement les yeux, et ton cerveau d'enquêteur, de l'ordre du savoir, au sein du Dominion, se met aussitôt en branle, analysant tout ce qui se trouve autour de toi. L'image à l'écran, c'est littéralement la vue subjective du Père Guilhem. L'humidité des lieux laisse peu de doute sur le fait que tu es retenu dans une cave. Elle est faite de pierres et de briques, et la pièce est en forme circulaire. Tu vois de nombreux couloirs qui partent dans tous les sens. Certains, tu t'en rends compte, ne sont que de simples alcôves, profondes de quelques enjambées seulement. Partout, d'incroyables machines de torture qui rivalisent en ingéniosité pour susciter la souffrance. Et tu y as goûté. Toi-même, tu es enchaîné à une table, inclinée à 45 degrés. Et comme tu vois trois autres tables semblables, tu comprends qu'elles sont munies d'un ingénieux mécanisme qui peuvent les faire basculer dans différentes positions. Deux des trois autres tables sont occupées de corps. L'un est visiblement mort à la vue de l'immobilité de sa poitrine. Et l'autre, également à 45 degrés, c'est un homme inconscient. Pas de traces de Mati. Ton jeune protégé. Et pourtant, tu es certain, avant de perdre conscience, d'avoir entendu sa voix. Alors que tu grimaces peut-être sous l'effort de tester tes liens, Père Guilhem, la caméra fait un zoom arrière et on réalise que le décor derrière toi n'est plus le même. Seule ta grimace subsiste sur ton visage. Nous sommes dans ton passé. On va aller te faire un petit flashback. Et tu es devant l'évêque Alzo. Je croyais vous faire plaisir en vous annonçant votre départ pour la côte de Mezzo. Vous qui êtes de nature si curieuse, ce sera votre premier voyage en ces terres de sable, non? Frère Mati, votre protégé, en sera fort heureux. Pourquoi cette grimace sur ton visage alors que ton supérieur t'annonce que tu vas partir pour la côte de Mezzo?
Eh bien, il se trouve que depuis quelques mois, j'enquête sur diverses malversations au sein de notre ordre même. Et j'ai commencé à toucher à divers petits secrets qui ne devraient pas être révélés et surtout à attirer une mauvaise attention. Et je prends cette réaffectation comme une façon de me mettre au placard, en fait, de me détourner de cette mission pour protéger les coupables.
Est-ce que tu soupçonnes ton supérieur, Alzo, d'être de connivence, ou tu penses que cette décision-là vient plus haut que lui?
Je n'ai pas encore de preuves comme quoi l'évêque Alzo ait eu des comportements répréhensibles. Cela dit, je sais que, à son niveau, la politique est plus importante que la foi. Et il subit certainement des pressions, qu'il soit conscient ou pas de la vérité qui se cache derrière ces pressions, il est bien obligé de les... De trouver en fait une solution.
Et toi, lorsque tu trouves un os, tu déroges pas, père Guilhem?
Ah, mais je suis comme un mâtin enragé. Je le tiens dans ma gueule et je ne le lâche pas. Sauf que là, on est en train de m'envoyer une bassine d'eau glacée pour me forcer à le lâcher. Et ce n'est qu'un début. Je sais que si ça va plus loin, si je continue à gêner ainsi, je risque un autre sort. Et il y en a d'autres qui ont connu des sorts peu enviables. Dès que l'on commence à s'intéresser à la politique secrète de notre ordre, il y a des squelettes qui sortent des placards. Et parfois, réellement.
Ok. Et dis-moi, Père Guilhem, ta soif de vérité, est-ce qu'elle est forte au point de te mettre en danger, de continuer cette enquête?
Elle est très forte, effectivement. Mais là où l'évêque Alzo a été très fort, c'est qu'il m'a mis face à un choix... avec deux positions qui sont assez équivalentes, car aller enquêter sur la disparition du frère commandant Solomon est effectivement quelque chose qui aurait une très grande importance, ne serait-ce que pour le Dominion.
Très bien. L'évêque Alzo, c'est le dirigeant des Pages Blanches, hein, une cellule au sein de l'Ordre du Savoir. Comme j'expliquais, il y a quatre ordres religieux au sein du Dominion. Et vraiment, cette mission-là, c'est de savoir si le frère commandant Solomon est réellement détenu, toujours vivant. Votre ordre, l'Ordre du Savoir, est riche. Et habituellement, elle expose de façon... ostentatoire sa puissance et sa fortune. Mais ta cellule, toi, au sein de l'ordre, hein, les Pages Blanches, ben, vous portez la robe grise ou noire. Dis-moi, Père Guilhem, se pourrait-il que votre cellule, les Pages Blanches, viviez de façon plus modeste que les autres membres de votre ordre?
Ça me semble effectivement correct, hein, de dire que nous sommes plus humble et moins en recherche d'enrichissement. Oui, effectivement.
Et là, le but des Pages Blanches est de recueillir des informations, ou même, je vous dirais, d'infiltrer des centres décisionnels des autres royaumes de Babel, donc d'être des espions. Est-ce que le Père Guilhem fut plus un récolteur d'informations ou au contraire, plus un infiltré, un espion?
Un espion, pas forcément effectivement quelqu'un qui collecte des informations, bien qu'il ait pu faire ce genre de mission. Le Père Guilhem aime chercher, enquêter, découvrir des secrets, et c'est d'ailleurs son obsession. Il veut apprendre et comprendre toujours plus.
Devant ta mine un peu contrariée...
Un peu contrarié. Je suis carrément furieux.
Devant cette grimace qui ne décroche pas, il essaie de tempérer un peu les choses. Vous êtes et de loin le plus qualifié pour cette mission, Père Guilhem. Une rumeur a traversé le détroit du Trident, venant de la côte de Mezzo. Le frère commandant Solomon, le fils de l'ancien connétable, serait encore vivant. Surprenant, voire quasi impossible, mais nous ne pouvons pas faire la sourde oreille à cet écho. De plus, la source est fiable. On parle de la ville portuaire de Nippur. Et il se lève de derrière son bureau. Alors que t'es toujours assis, il vient mettre une main sur ton épaule. Je veillerai sur le père Siméon. J'ai sollicité la présence de père Berthold, l'un des plus éminents guérisseurs de la capitale. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Il fait référence à ton meilleur ami, hein?
Oui, le père Siméon, qui a été d'abord mon mentor, mon tuteur.
Te surveiller
aussi? S'il n'était pas... Oui, mais et secrètement mon surveillant. Même s'il n'était pas vraiment plus vieux que moi, il avait plus de temps au sein des pages blanches. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé, à savoir comment est-ce que j'ai pu être recruté plus âgé, on va dire, que l'âge de recrutement des pages blanches, généralement, parce qu'on recrute des jeunes ados. Moi, a priori, j'avais déjà... j'entrais en tant que jeune adulte. Mais c'est toujours flou. De toute façon, j'ai le sentiment d'avoir un passé un petit peu flou.
OK. Et est-ce qu'il réussit, l'évêque Alzo, à te calmer un peu en te disant que il va attribuer l'un des meilleurs guérisseurs auprès du père Siméon? Parce qu'on le sait, depuis quelques mois, le père Siméon, ton meilleur ami, a des pertes de mémoire de plus en plus fréquemment et de plus en plus longues. Même que la semaine dernière, on l'a retrouvé errant dans les bas quartiers à appeler le nom de son père. Son père qui est mort depuis quelques décennies.
Oui, il subit une dégénérescence et ça me fend le cœur. Ça, plus que cela, ça m'attriste et ça me fait peur. J'ai peur de moi aussi de devenir impotent comme il est en train de le devenir. C'était quelqu'un de si efficace, de si bon aussi, un esprit très 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 brillant qui m'a beaucoup appris. Et c'est beaucoup de tristesse que je ressens face à cette perte.
Tu vois que l'évêque Alzo compatise pour cette tristesse. Il s'en retourne près de son bureau. Votre départ est pour demain. Avertissez votre jeune protégé. Pardonnez-moi, Père Guilhem, mais une pile de courriers attend que je me brûle les yeux à leur lecture. Et il empoigne... un coupe-enveloppe sur le bureau. L'image du coupe-enveloppe se superpose à celui du couteau sur la table dans ta salle de torture où tu es présentement prisonnier. Le couteau qu'a utilisé l'enténébreur Moon lorsque tu t'es réveillé précédemment. Aussitôt, des images t'assaillissent. De ce moment que tu as vécu hier, tu revois Moon se redresser dessous la table du prisonnier qu'il appelle capitaine. Moon est un homme à la peau cuivrée et tout son corps, même son visage, est recouvert de tatouages dorés, des symboles ou un langage inconnu. Et tu en connais beaucoup. Plus fascinant encore, ce sont ses yeux entièrement d'or. Il avait une coupe argentée dans la main, rempli et débordant de sang, provenant du capitaine. Levant la coupe à la hauteur de son visage, l'enténébreur s'est mis à le brasser avec la lame de son couteau et à chantonner une curieuse incantation dans une langue qui t'était étrangère. De la fumée s'est échappée de la coupe, puis un liquide noir, comme doté de vie, s'est agrippé sur le rebord du récipient, comme pour tenter d'en sortir. Un sourire presque fou jouait alors sur les lèvres de l'enténébreur. « Oh, magnifique! Incompréhensiblement magnifique! » Mais ça, ce sont des images du passé, des images d'hier. Tu es seul maintenant, dans cette salle de torture, et le dit capitaine semble inconscient. C'est lui qui est couché sur la table, à 45 degrés. Le couteau est là, sur la table, tacheté de noir et de rouge, peut-être une arme pour t'aider à t'échapper. Vous êtes les deux, messieurs. Laissez à vous-même dans cette pièce. Cal, tu es toujours inconscient.
J'ai toujours cette douleur dans la tête qui me brouille ma capacité de raisonnement. Je ne pourrais pas utiliser mon esprit brillant pour m'en sortir tout de suite. Je regarde à droite et à gauche. Les flashs de ce qui m'est arrivé hier reviennent parfois, provoquant des soubresauts nerveux dans tout mon corps. Mon corps qui a encore des relents, des supplices qu'il a subi sous la torture. Je tourne encore la tête en direction de celui qui fut appelé capitaine j'essaye de faire sortir un son. Au début, ce n'est que un son rock. Je suis obligé de m'y prendre plusieurs fois. Je suis assoiffé, j'ai la gorge sèche. Mes cordes vocales ont du mal à produire mes paroles. Mes lèvres sont sèches et me font mal quand je les bouche. Capitaine
Cal Shaddim, es-tu enfoui profondément dans l'inconscience ou tu t'es remis un peu plus?
Ouais, absolument. Lorsque j'entends le mot capitaine dit par une voix que je ne connais pas, mes yeux s'ouvrent doucement, sans trop de hâte. Est-ce qu'on a toujours cette espèce de d'étau qui nous serre la tête ou plutôt
votre tête a été libérée. Okay. Vos chevilles et vos poignets sont toujours solidement attachés de chaînes.
Bien, lentement, sans trop de hâte, le capitaine Shaddim tourne la tête doucement. Vers la source de ce bruit, avec un regard qui est difficile à déchiffrer. Est-ce qu'on y lit une lassitude, une frustration, de la colère, de l'irritation, peut-être toutes ces réponses? Mon regard se pointe sur la source de cet appel et tout ce que tu vois, c'est une espèce de regard interrogateur. Comme si je te demandais pourquoi tu me réveilles.
Père Guilhem, tu parles très bien le Maison-1.
OK.
En tant qu'espion, et c'est pour ça qu'on t'a envoyé sur ce territoire. Donc, vous n'avez pas la barrière de la langue.
OK. Il t'a appelé capitaine hier. Je l'ai entendu. Mais tu dois avoir un nom, n'est-ce pas?
Eh bien, c'est... Mon nom dépend de ce... Sommes-nous morts? Est-ce ce que, dans ta culture, nous appelons le purgatoire? Sommes-nous en attente du jugement?
Peut-être, oui. Mais même mort, je ne pense pas que nous serions entravés ainsi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu n'as pas répondu à ma question.
Et... Toi, l'homme de l'autre côté de la mer, en quoi mon nom t'importe-t-il?
Le nom des gens les définissent beaucoup, mais je préfère éviter de t'interpeller autrement qu'avec la déférence qu'un nom donne à son porteur.
Un rapide tour des yeux, je physique la pièce, j'essaie de m'en imprégner. Tout ça pour un peu trouver peut-être un nom d'emprunt, un nouveau. Eh bien, tu peux m'appeler Aslan.
Va pour Aslan.
Et toi, je remarque à tes habits que tu es religieux, c'est bien ça?
Oui, un pèlerin, un moine voyageur. Je parcours les... un érudit aussi. Je parcours les terres, rencontre les peuples, apprends leur culture,
Aussitôt, l'image de Kenan te vient un peu en tête, hein? La lecture, ce genre de truc.
Et dis-moi, religieux, est-ce que ton point de départ est-ce le Dominion?
Au point où j'en suis. Effectivement, oui, c'est le Dominion.
Tu vois, le visage se crispe. Ah.
Ça ne t'a jamais rien apporté le bon, le Dominion, n'est-ce pas, Cal?
C'est bien dommage. Peut-être aurions-nous peut-être pu discourir, mais je ne vois pas en toi une personne avec qui il me serait agréable de dialoguer.
Parce que tu crois que dialoguer avec un barbare inculte est agréable pour moi? On est au même niveau, alors autant faire un effort.
Ah, eh bien, si je suis un barbare inculte pour toi, il ne t'avance à rien de continuer de m'adresser la parole dans ce cas.
Et en plus avec une fierté mal placée.
Mais si tu déciderais de cesser de me parler, peut-être pourrais-je poursuivre mon sommeil et reprendre des forces. Parce que si nous ne sommes pas morts, bien, il faudra bien sortir d'ici un jour.
Ah, mais le plus tôt sera le mieux. Je pense que... je suis conscient de son nom à l'autre, là, l'Anténébreur Moon.
Il t'a pas dit son nom, mais tu t'as peut-être assez étudié les registres avant de partir au sein de ton ordre pour... L'image est assez percutante de Moon, hein? Donc oui, t'as associé carrément l'image, ses tatouages dorés, ses yeux. C'est le conseiller principal du roi Azim.
L'Anténébreur Moon reviendra et il recommencera. Il nous tuera bientôt. Soit parce qu'il aura eu ce qu'il veut, soit parce que il n'aura pas eu ce qu'il veut. Dans tous les cas, notre destin est scellé. Il faut partir de là.
À ces mots, vous entendez le pen, un pen qu'on déverrouille, et des pas. Sans doute deux personnes. Oh, capitaine! À ses côtés, tu as Zifa, qui se tient un peu en retrait. Tu vois qu'on a pansé son bras. Et il t'observe, Kal Shaddim, d'un regard brillant et fasciné.
Je ne croyais jamais vraiment devant, mais voir l'homme que j'ai tué me rend indifférent.
Vous aimeriez peut-être mieux cette apparence. Et soudainement, tu vois sur sa peau comme des vadelettes de chair bouger. Il se ratatine un peu sur lui-même, et c'est le bossu que tu as rencontré au port et qui t'a tendu une demi-pomme qui est devant toi à la place de Zifa.
Ah, ceci explique cela. Vous êtes fourbe, plus que je le pensais, magicien.
Je suis un apprenti. Et grâce à ma présence, vous êtes toujours vivant, capitaine Shaddim.
Eh bien, laissez-moi encore quelques temps avant de vous en remercier, afin de voir si cela est bien un service que vous m'avez rendu, ou plutôt une damnation que vous m'offrez.
Il s'approche un peu de toi. D'une main hésitante, il va te plaquer sa main sur ton bicep. Nous sommes du même côté, capitaine. Croyez-moi.
Eh bien, je dois vous avouer que j'ai peine à le croire. Mais sûrement sur vous avez-vous la preuve de ce que vous avancez.
Tout en son temps, capitaine, vous devez d'abord guérir. Moon, lui, s'est approché de toi, Père Guilhem. Il s'arrête, se fige et te regarde, planté devant toi.
Qu'est-ce que vous me voulez?
Mon père, c'est bien le titre que l'on vous donne dans votre ordre. Quelle prétention, quelle arrogance, se faire ainsi appeler père. Seul un roi pourrait prétendre d'être le père de tous. C'est votre orgueil qui finira par faire tomber votre royaume, ce dominion.
Libre à vous de le penser. De toute façon, je ne suis pas en situation pour vous en empêcher.
Je salue le courage du jeune homme qui vous accompagnait.
Qu'est-ce que vous avez fait de lui ? Là, je malgré les douleurs qui traversent mon corps, je me raidis, je deviens un petit peu plus un petit peu plus agité.
À ton mouvement, tu vois qu'il il arque un sourcil, comme surpris de ta réaction.
Vous êtes un homme de connaissance, mon père. Alors vous comprendrez sans doute mes motivations. Zifa!
Le bossu, désormais, se dirige d'un pas traînant vers une lourde porte de fer et commence à tourner une manivelle qui est à côté. Dans un grincement, les portes se fendent lentement en deux.
Un grognement animal, amplifié par la forme circulaire de l'endroit, parcourt la pièce. Dans les ténèbres, tapis entre les deux portes, deux yeux jaunes entre les barreaux de fer. Puis soudain, le visage déformé de Mati, ton protégé, vient frapper la barrière de métal.
J'ai faim! J'ai faim! Sang! Sang!
Le jeune Mati est nu, le corps bruni de saleté et griffé de plaies qui recouvrent presque la totalité de sa peau. Que ressens-tu à cette vue, Père Guilhem?
Je crois que j'enrage, j'explose. Je sors de mes gonds. Il n'y a plus de Père Guilhem. Il y a juste un homme, limite un père, car je le considérais un petit peu comme mon fils, qui se met à insulter Moon, à le traiter de tous les noms, à lui dire que je vais lui faire payer ce qu'il a fait. Il ne s'en sortira pas ainsi.
Je suis déçu pour un homme de savoir de cette réaction.
Et il se retourne vers toi, capitaine Kalshadim.
Je lui ai donné un peu de votre sang, capitaine.
Et, bien évidemment, je n'en crois pas mot, vous savez, vous, ces magiciens fourbes qui trompez les gens et qui faites n'importe quoi sans valeur ni honneur, vous avez perverti ce jeune garçon avec votre magie profane. Le mieux qui pourrait lui arriver maintenant, c'est une mort rapide et efficace.
Non. On ne peut franchir les mers de l'ignorance sans sacrifier quelques bateaux et marins. Je vais tenter de sauver le jeune homme. Mais c'est bel et bien votre sang qui a causé cet état.
Et là, on entend toujours le jeune frère Mathis qui se heurte au barreau.
Aidez-moi! Ah, j'ai besoin de sang!
Et est-ce qu'on entend toujours la voix du père Guilhem qui invective l'enténébreur?
Je l'ai invectivé un certain temps, effectivement. Mais en l'entendant dire qu'il allait tenter de le soigner, entre guillemets, je me suis calmé et là, la raison a repris le dessus. Et essayer d'écouter quel serait son plan, sa stratégie.
Alors, sans doute qu'on voit ta poitrine se soulever à l'effort de ta respiration, alors que tu as coléré pendant une bonne minute. Moon s'approche.
Vous me décevez, mon père. Je ne veux plus me battre contre vous et votre stupide foi. Je n'ai ni le temps, ni cette patience. Vous avez fait un mur de votre esprit et vous semblez prêt à endurer toutes les douleurs possibles. Soit vous parlez, soit vous mourrez. Que décidez-vous ?
Je ne détiens pas de réponse que vous cherchez, et vous vous emburez dans vos fausses croyances comme quoi je fais un mur de mon esprit.
Vole, vole à mon secours.
Le couteau sur la table, décolle et vole jusqu'à toi, Père Guilhem, à une vitesse folle, soufflé par un vent invisible. Un choc. Tu penches la tête, seule la poignée sort de ta poitrine. Le cœur. Tu ne sens rien. Alors que tu imaginais qu'un cœur cessait de battre lorsqu'il était transpercé, le tien semble marteler de plus en plus vite, de plus en plus fort. À chaque battement, des images étranges s'imposent à ta vision. Tu es devant une grotte, dentelée de stalactites. Une odeur fétide fait plisser tes yeux. Les vapeurs d'une voix qui résonne dans ta tête.
Bienvenue, mon enfant. Avance, Cal.
Tout bascule. Une odeur de fumée dans la nuit. Des dizaines de soldats devant toi. Tu les surplombes. Non, tu es sur un bûcher, attaché dos à un énorme X fait de deux poutres massives. Parmi les hommes devant toi, crasseux et certains blessés, un homme impérieux avance, torche à la main. Un diadème doré et serti de joyaux fait le tour de son turban sur sa tête. Tu reconnais le symbole des rois mésoïens, mais ce roi n'est pas Azim, ni le roi précédent, Abib.
Je vais te brûler en ténébreur. J'en fais le serment. Jamais plus tu ne tourmenteras mon peuple.
Il avance sa torche près des rameaux qui composent la base du bûcher.
Non, non, oh roi, alloué. Je puis faire le serment de me lier à jamais à la protection de cette terre, qu'est la côte de mes eaux, votre serviteur, je saurai.
Le bras du roi Alaoui s'arrête. Le couteau, le sang noir et le sang rouge, le sang du capitaine, mais aussi le sang de l'enténébreur. Père Guilhem, tout s'éteint, même le son de ton cœur.
La mort n'est que le début, diront les optimistes. Désolé, je me suis laissé emporter par mon côté sadique. Chapitre 2. Contact. 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 Contact!
Et le capitaine se retourne vers toi, Solomon. Êtes-vous prêt à embarquer sur ce navire, sans ta garde?
Solomon va simplement acquiescer et descendre le château.
Kenan, comment tu as vu tout ce qui vient de se passer?
Je suis resté plutôt en spectateur, en fait. Hein.
Et dans ta tête, avais-tu imaginé comme ça, cette première rencontre avec le frère commandant Solomon? Parce que là, vous allez vous rencontrer dans une chaloupe, dans une mer assez agitée, à vous diriger vers un navire qui a une étrange allure.
Bah, pas vraiment, non. Je suis pas sûr. Hein. Je pense que je suis encore dans ma cuite en train d'essayer de... un peu aveuglé par le peu de lumière qu'il y a, là. Et je me rends pas encore vraiment compte de la discussion qui s'est passée et de ce qui va vraiment m'attendre.
Solomon, tu as mis le pied sur le pont principal. Tu vois Mali se redresser pour se remettre assis, hoqueté deux ou trois fois, puis te regarder. Joe, le prêtre du dieu noyé, lui, n'en démarre pas, là.
Cet homme nous dit n'importe quoi. Tu ne vois pas qu'il cherche à tous nous diviser, à nous nuire?
Son adresse est toujours au capitaine qui est resté à la barre. Mais il semblerait que le capitaine John Timble a pris sa décision et qu'il ne fera pas marche arrière. Tu vois le fameux Carl et Sage qui qui se prépare, qui s'affaire autour de la chaloupe. Ils embarquent aussi, outre leurs épées, ils se munissent de harpons. Car Karl est le maître harponneur à bord et que Sage est une harponneuse. Donc c'est pas mal leur arme de prédilection. Solomon, c'est peut-être là que tu te rends compte que les mains menottées pour aller à bord de ce navire qui semble étrangement calme n'est pas une bonne idée. Ne serait-ce que si la chaloupe se renverse, être privé de ses deux mains.
Et est-ce que... Donc, à savoir si c'est des menottes ensorcelées, c'est sûr que je peux pas utiliser la ténèbre.
C'est ça.
Pour m'en défaire.
Et nous ne savons pas encore. On avait dit qu'on garderait cette information sous le coude si tu faisais un mauvais jet. À date, il n'y en a pas eu. Donc, il n'y a peut-être pas de raison que ce soit les fameuses menottes qui te coupent de la ténèbre.
Donc, une chance sur deux qu'il joue pour rien, parce qu'en fait, il va peut-être mourir au milieu de la partie, quoi.
Ben ça, c'est comme dans toutes les parties. C'est un sort qui pend au-dessus de vos têtes comme une épée de Damoclès.
Solomon a une certaine affinité avec les métaux et donc tout simplement les chaînes. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le mouvement pour se séparer les poignets et tout simplement en même temps utiliser la ténèbre pour que sous le coup les chaînes se brisent. D'un regard extérieur, ça aurait de l'air tout simplement d'un homme d'une force incroyable qui défait des chaînes, mais Solomon se sert en fait de la ténèbre pour les briser.
Ok. Est-ce que tu me fais le grand jeu là-dessus? Parce que, bon, on va appeler ça un sort doux, ok? Il te coûterait un PF. Ouais. J'ai encore mis PM là-dessus, là, mais c'est des points de focus. Il te coûterait un PF. Mais si tu me fais le grand jeu, ça veut dire que si tu me fais une incantation et que le geste est accompagné aussi, mais le grand jeu te permet de soit d'enlever un PF, un point de focus, ou soit de rendre le pouvoir un peu plus fort avec un NA, un niveau d'action supplémentaire, mais là, ça ne sert à rien. Fait que j'imagine que sans doute que tu vas me faire le grand jeu pour que ce soit gratuit.
Oui.
Très bien. Donc, on veut voir la scène et entendre le frère de la rondache utiliser la ténèbre.
Tout simplement, Solomon va bouger les doigts et tracer des signes en l'air en disant tout simplement...
Ce qui est pris peut être débris.
Ouais, ou peut-être tout simplement le métal... Le métal qui va me retenir n'a pas encore été forgé. Et à ce moment-là, faire le mouvement de libératoire. Et on voit les maillons tomber, s'éparpiller sur le pont. Et Solomon va, sans plus attendre, se diriger vers les deux harponneurs qui sont en train de mettre la barque à l'eau et appeler Ygritte pour qu'elle le suive.
À l'appel de Solomon, est-ce que Ygritte...
Oui, elle va suivre à son appel.
Très bien. Est-ce que Kenan s'est senti interpellé quand on a parlé de Solomon et de ses accompagnateurs?
Mais en fait, il s'est pas... Ouais, il s'est pas forcément senti interpellé, mais quand il va voir Solomon... Il est encore un peu dans sa bulle. Mais quand il va voir Solomon commencer à partir avec Ygritte, il va aller les rejoindre en les interpellant. Hey, « Eh oh, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez où comme ça ?»
Solomon, tu te retournes sur ce jeune homme de 16 ans.
Kenan, j'imagine?
Oui, c'est ça. Kenan Karman. Fils de Beren Karman.
Ben, excellent.
Il a pratiqué cette phrase-là. Le fils Bien. De...
Viens avec nous, Kenan. On doit prendre cette chaloupe, sinon l'équipage est bel et bien perdu.
Non, mais attends. J'avais quelque chose à... J'ai quelque chose dans ma cabine, là. À vous passer...
Attends, laissez-moi 2 minutes.
Oh, le bureaucrate. Il va faire signer des papiers. Oh, l'administration, que c'est lourd, les maisons. Hein.
Là, tu vois Kevin partir.
Le formulaire. Ça vous parle, le formulaire.
Le formulaire numéro 402. Et là, tu vois Kenan qui commence à partir en courant. C'est pas vraiment une course parce qu'il est encore sous l'effet de l'alcool, un petit peu titubant, mais il va essayer de courir comme il peut vers sa cabine.
Arrivé tout proche de l'ouverture pour descendre en bas, tu te heurtes à deux fermiers qui, eux, ont entendu le discours de Mali. Et si on a senti toute la hargne de Joe, le prêtre du dieu noyé, on comprend sans doute que les mois qu'a passé Mali avec cet équipage-là à prédire, à les extirper de mauvais, tu sais, de mauvais coups, de mauvais coups du destin, mais il y a sans doute une part de l'équipage qui ont foi aux prédictions de Mali. Et c'est une pompe de main qui te réceptionne à la poitrine comme pour te barrer le passage. Tu es attendu dans une chaloupe, jeune homme.
Oui, je sais, mais je dois aller chercher quelque chose dans ma cabine, là.
Le deuxième homme, lui, sort lentement son sabre.
Tu vas pas risquer toutes nos vies, n'est-ce pas? Ce serait stupide de ta part.
Ok, là je recule un petit peu, en levant les mains pour lui dire de se calmer. Et je vais tenter de le séduire.
Mais il veut séduire tout
Je vais
monde.
Le séduire.
Il y a un danger de mort imminent. Je vais
Hello
le séduire.
Hello you.
Mais c'est devenu un réflexe.
En fait, je vais tenter une séduction assez incroyable. Je vais tenter.
Ben c'est pas de la, pour Kenan, c'est pas de la séduction là. T'sais, c'est la compétence séduire, amadouer. T'essaies de les mettre de ton côté tout simplement là. Tu leur fais.
Ouais, c'est ça. Je vais essayer de les mettre de mon côté en leur expliquant à quel point la bureaucratie est importante pour que la société fonctionne.
On veut te voir aller et à un moment donné, ben je vais te permettre de tirer. Séduction, puis amadouer.
Ok.
Que fait Kenan devant ces deux hommes, alors que on a peut-être un Solomon qui commence à taper du pied, manière de parler, près de la chaloupe avec Carl, Sage et Ygritte. On va peut-être voir une Ygritte aller t'empoigner, connaissant son caractère.
Je pense que ça va être ça. Non, mais écoutez, messieurs, restons calmes. J'ai juste besoin d'aller chercher quelque chose pour le voyage. Sinon, on ne va pas survivre. C'est quelque chose de capital. Écoutez, c'est une missive que je dois récupérer du roi Azim en personne. Si je ne fais pas ça, je suis condamné, et vous aussi. Parce que ça sera de votre faute si j'ai pas pu livrer... ce parchemin.
Là, je vais avoir l'air dur là, en tant que MJ, là, mais dans tout ça, j'ai pas d'éléments pour déclencher une compétence comme amadouer.
Non, ben on dirait plus que c'est il essaie de convaincre que des séduire amadouer.
Mm-hmm.
Ouais, ou de leur faire un petit peu peur, quoi, si...
T'es sur un bateau rempli de fernés, donc il n'y a aucune matière d'intimidation ou... moi, je verrais de la négo. Mais ça sera pas facile, je te donne un handicap, parce que c'est pas une place pour négocier. Les hommes sont convaincus, on parle d'une ferveur religieuse ici, t'as 5. Mm-hmm. Eux autres ont 4, ça serait un jet à 50% normalement, mais là, le temps, le ci, le ça, les circonstances, le bruit alentour, t'es pas dans une situation favorable pour tenter de convaincre quelqu'un. On va y aller avec un jet à 40%.
Pas de soucis, j'adore le challenge et puis.
Toujours du challenge aussi.
Je pense que c'est ma soirée pour faire des critiques, donc pour avoir un truc à 10%, ça me suffirait.
Est-ce que t'es en train de. de mettre de la poudre aux yeux? C'est-tu une compétence que tu fais contre le MJ? Je t'annonce tout de suite que ça va prendre plus qu'une compétence. Ça va prendre la ténèbre parce que j'y crois pas.
Je ne récupère pas mes points comme ça de ténèbres. À un moment, il faut que je me débrouille par moi-même.
Oui, mais là, t'es tous.
Ah bon? Ah, tu les récupères tous pendant
l'année? Vous avez dormi, là.
D'accord.
D'accord.
Non, en vrai, je l'aurais pas utilisé.
Alors, 40%, qu'est-ce que ça donne, Kenan?
Ah, ben ok, ça marche.
C'est un beau 12.
C'est un beau 12. C'est une réussite totale.
Oh, yeah!
Tu réussis exactement ce que tu désires. Et ce que tu désirais, ben, c'est de descendre à ta cabine. Alors, tu vois l'homme qui a mis la main sur ton torse, l'a retiré. L'homme, lui, qui a tiré au clair son sabre, est beaucoup plus réticent. Mais comme il est plus petit que le premier qui t'a abordé, tu vas le voir soupirer. Fais vite! Ils t'attendent!
Bah, au moment où il me dit ça, en fait, je vais comme être figé, en fait, parce que je m'attendais pas du tout à cette réaction. Je m'étais un peu embourbé dans des explications semi-convaincantes, là, donc j'étais même pas convaincu moi-même de ce que je pouvais raconter. Et en le voyant, ça me fige un peu. Et je pense que c'est à la deuxième fois où il va me rappeler, qu'il va me dire « Oh, qu'est-ce que tu fais encore ici ?» que là, je vais me dire « Waouh, ok, j'ai réussi. Ah, » C'est presque un « Ah, vous êtes sûr ?»
Non content d'impressionner les autres, tu t'impressionnes toi-même, Kenan.
Exactement, j'ai pas l'habitude de convaincre, en fait, juste par les manières naturelles, en fait. Donc, ça m'a un peu comme choqué, ce qui s'est passé. Mais du coup, je vais courir à ma cabine, et puis je vais ramasser, du coup, le parchemin que je dois livrer, que je dois faire signer à monsieur Solomon, le formulaire numéro 402-B.
Ouais, mais tu en as trois qui sont pareils, et ça nous prend des copies, hein, et comme on n'a pas de carbone copies, à l'époque, ça prend trois signatures. Alors que tu descends au cœur du navire, on voit Carl et Sage aider de d'autres fermés, là, commencer à descendre la chaloupe, à vous faire signe. Carl et Sage sautent à l'intérieur et vous fait signe d'embarquer, Ygritte et Solomon.
On va suivre.
C'est parti, mon kiki.
J'imagine que Ygritte, un petit peu le cœur qui palpite un peu plus vite à la grosseur des vagues que tu vois.
Et à la grosseur de la chaloupe.
C'est en plein ça. Si ça brassait dans un navire qui peut accueillir entre 80 et 90 personnes, dans une chaloupe qui peut en contenir une dizaine, écoute, t'es une feuille dans une rivière, là. Tu sais, ça va brasser. Kenan, tu as agrippé les trois rouleaux et on te revoit là, à la clarté, au peu de clarté du jour, réapparaître.
Ouais, c'est ça, c'est un Kenan en fait droit et fier de lui, qui est souriant, hein, qui va rejoindre les deux autres.
Oui, alors que tu cherches la chaloupe des yeux où elle était lorsque tu as descendu, mais là tu ne la vois plus. Tu vois seulement deux poulies, un système de cordage qui sont là, avec les cordes tendues, mais tu comprends qu'on a déjà commencé à descendre la chaloupe.
Ouais, c'est un sketch, je pense que je m'en rends compte au moment où je suis en train de lever le parchemin et de dire « C'est bon, j'ai les parchemins!
» C'est vraiment le décalage. T'es pas dans ton élément. Où est mon bain chaud et ma villa?
Tout est trop compliqué sur ce bateau.
Ouais. Que fais-tu, Kenan?
Du coup, la chaloupe, elle est
en train de descendre. Elle est à mi-chemin entre la mer et le bastingage.
Ouais, ben je vais m'approcher en fait pour être juste au-dessus là, sur le ponton, juste au-dessus du bateau en fait. Est-ce que je peux arriver à sauter là ou à me...
C'est deux mètres, ça se fait bien.
Ça se fait bien, il y a assez de place dans la chaloupe. Hein.
Oui. Écoute, c'est une chaloupe pour 10, puis ils sont 4 présentement dedans.
Ok, bah du coup, je vais arriver comme
Ouais, au-dessus d'eux, en fait, et puis je vais leur crier « Hé, attendez-moi !»
Et on entend un gros boum alors que Kenan se réceptionne au milieu de la chaloupe.
Ouais, c'est ça, j'attendais que Ygritte peut-être ouvre ses bras pour me rattraper, mais bon, apparemment...
Non.
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 Alors que tu te réceptionnes et que tu reprends ton équilibre à bord de cette chaloupe qui continue sa descente vers les flots, la caméra prend en gros plan le visage de Kenan. Est-ce que c'est un sourire? Qu'est-ce qu'il y a sur le visage de Kenan?
Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Alors pour aller jusqu'au bout, hein, ça pourrait être encore un sourire heureux d'avoir toujours de lever le parchemin en l'air pour dire c'est bon, hein. Il est en bon état quoi, mais
Solomon, tu dois présumer de quoi il s'agit là. Tu savais que oui, t'as donné ta parole que tu ferais ce duel judiciaire là, mais tu comprends que tu vas devoir immortaliser la chose en signant des documents pour les maisons.
Mm-hmm.
Alors que... Oui.
Non, j'allais dire tout simplement, là, dans le moment, de toute façon, c'est pas...
Non, je pense que c'est la seule préoccupation de Kenan, là. Il a
juste pour aller chercher ça. Mais il se rend compte que ce que Beryn lui a parlé sur son fils est plus que vrai et tristement vrai.
Écoute, la chaloupe a seulement, je vous dirais, quelques centimètres de l'eau, là, à un pied. On largue les cordes et on a un boom alors qu'elle se réceptionne sur les vagues. Et aussitôt, Carl et Sage entreprennent de prendre les rames et de ramer jusqu'au navire la veuve blanche. Ça va être assez pénible comme petite traversée. Le navire est pas très loin, mais la mer semble ne pas vouloir de vous. On voit qu'on est un peu comme à contre-courant, c'est pas facile. Et rapidement, vous voyez le front de Carl et de Sage se couvrir d'une pellicule de sueur.
Moi, je vais leur proposer de changer. De prendre leur place.
Après un certain temps, Carl va te jauger. On va sentir que son orgueil dispute un peu son raisonnement. Mais sans doute que la brûlure de l'effort au niveau musculaire va faire en sorte que son hésitation va durer quelques secondes, puis il va se tasser pour te laisser la place.
Et prenant la place, hein, pour que soit sauf son orgueil, je vais lui demander tout simplement, Carl, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la veuve blanche?
C'est le navire de Ted Kenning, le capitaine Ted Kenning. De bons hommes. Je vous dirais, aux dernières nouvelles, un équipage d'environ une cinquantaine d'hommes.
Et ils travaillent pour un pays ou sont indépendants?
C'est un des nôtres. Il fait partie de la flotte des Fernés.
Très bien.
On voit que Sage commence, elle, à ralentir, alors que toi, tu commences à peine à pagayer, à ramer. Sage est un peu en âge, là, que ça fait peut-être 5 minutes qu'elle force contre les flots, là, puis ça devient plus difficile pour elle, là.
Ygritte va lui proposer de prendre sa place, même si elle sait pas trop ce qu'elle fait, là.
Elle, contrairement à Carl, elle va accueillir ta proposition avec un sourire. Tu peux comprendre aussi à son teint que ce n'est sans doute pas une fermée, hein, sûrement pas, là.
Mm-hmm.
Sans doute une pirate d'adoption par cet équipage. Donc, elle va te faire un hochement de tête et te laisser sa place. C'est donc vous deux, Ygritte et Solomon, qui allez raccourcir la distance et finir cette course vers la veuve blanche. Et plus vous avancez vers la veuve blanche, et plus on dirait que les sons environnants se font plus sourds. En jetant un regard vers l'arrière, Kenan, ben, tu réalises que vous n'entendez plus le chahut de l'équipage de la marée rouge. Et pourtant, ben, vous n'êtes pas si loin que ça. Je dirais que même le bruit des vagues contre votre embarcation semble étouffé, comme si l'air s'épaississait.
Ouais, je vais le faire remarquer à mes camarades. Hein. Vous trouvez pas que c'est calme ici?
Sur ce, je vais faire signe à Ygritte d'arrêter de ramer et moi également, on va tendre l'oreille tous, hein, tous les cinq, à essayer d'entendre quoi que ce soit en arrêtant de ramer.
Vous arrêtez de ramer. On entend encore quand même le clapotis de l'eau contre la chaloupe, mais effectivement, tout semble plus sourd. Et ce curieux brouillard, hein, qui s'accroche au navire de la Veuve Blanche, qui s'accroche au voile, comme si c'était quelque chose d'organique. À bien y regarder, il y a des choses qui semblent s'agiter à l'intérieur de ces voluptes blanches, un peu grisâtres. Il y a même des particules qui semblent virevolter dans tous les sens. Particules qui brillent comme si c'était de la neige. De la neige sous l'effet du soleil. Et tu vois Carl, pardon, tu vas juste faire...
Par les dieux noyés, on dirait de la neige. Et
là, tu vois qu'il se masse les avant-bras, là.
Et il fait froid tout d'un coup.
Si j'étais superstitieux, je croirais au navire fantôme.
T'es pas sérieux, là.
On va aussi entendre Ygritte de lâcher un quoi. C'est comme si... Non, mais qu'est-ce que tu racontes?
Si on était dans une espèce de BD, on verrait peut-être le visage de Carl un peu blêmi. Hein. Les marins sont très superstitieux.
Un navire fantôme? Non. Je sais, on a eu des nouvelles de la Veuve Blanche il y a à peine 3 semaines. Ça m'étonnerait.
Et là, tu vois qu'il force un peu un sourire, là, comme pour s'apaiser lui-même.
Solomon, lui, va crier à l'adresse de la Veuve Blanche. Oh oui, du navire! Il y a quelqu'un?
Rien. Mais cette micro-tempête de brouillard qui semble s'enrouler autour du navire... Mais après un certain moment, tu vois comme des trompes de vent qui semblent partir dans tous les sens, comme à la recherche de quelque chose. C'est comme si ce brouillard-là avait quelque chose de réellement vivant. Mais c'est fugace, hein, ça ne dure qu'un temps et cette impression te délaisse. Mais vous n'êtes pas rassuré. Vous êtes encore à quelques coups de rame pour accoster le navire.
On va au moins les donner pour arriver là, bois contre bois, hein, arriver contre la coque de la Veuve Blanche, puis s'attacher.
Tu vois que Carl se penche, prend une corde terminée d'un harpon et il attend à Sage qui aussitôt s'exécute et avec une agilité toute féline... se lève debout, se tient en équilibre malgré le tangage de l'embarcation et lance le grappin. Et du premier coup, il s'accroche au bastingage. Elle accroche ensuite l'extrémité de sa corde à la chaloupe et entreprend de grimper. Tu vois, avec une corde, elle accroche son harpon à son dos et commence l'ascension.
Je vais la suivre en deuxième.
Suivi d'Ygritte.
Je vais suivre en dernier.
On s'en doutait. Et là, on s'en doute que, alors que vous êtes seulement les deux, toi et Carl, Kenan, Carl te regarde, et voyant que tu ne fais absolument aucun geste, tu vois qu'il soupire, puis de ses grosses mains, c'est un homme très corpulent, un peu dans les gabarits du capitaine. mais il agrippe la corde et il commence l'ascension.
Carl, c'est ça? Faudrait peut-être que quelqu'un reste là pour garder la chaloupe, non? En attendant que vous alliez voir.
Tu vois. Et là, tu vois qu'il regarde la chaloupe, il semble chercher quelque chose. Tu vois quelque chose à garder ici, elle est attachée.
tu vois Kenan qui se gratte la tête. Ouais. Il va se lever et puis il va embrayer. Il va suivre Carl juste après lui et commencer à monter.
On sera pas trop de 5 en haut. Et là, tu vois qu'il amorce sa montée. Une fois que les 5 vous êtes réunis, hein, vous comprenez que Sage, même si elle fut la première à mettre le pied sur le pont, elle s'est pas éloignée. Autour de vous, c'est vraiment, mais vraiment inquiétant. Il y a quelque chose d'anormal avec ce brouillard qui semble se déplacer, aucun doute. Alors que vous avez les deux pieds sur le pont, ce n'est pas un phénomène naturel. Autour de vous, le monde s'agite et il y a un sentiment qui vous envahit. Dans cette tempête de brouillard, dans cette qui tourne, qui s'enroule autour des mâts, qui s'entourne autour des barils laissés pêle-mêle au sol, dans la tempête, douleur et tourment. Comme si c'était une tempête de détresse. En fait, vous ne sauriez pas dire tout ce que vous ressentez, mais il y a quelque chose de torturé dans qu'est-ce que vous voyez. Et là, Carl murmure « Ce qui est mort ne saurait mourir. » Et il prend le harpon accroché à son dos et le prend solidement à deux mains et pointe vers l'avant et commence à avancer. Tu allais dire, Solomon?
Ouais, je voulais dire tout simplement, le brouillard qui se promène fait en sorte est-ce qu'on a une vision dégagée du pont du navire ou on ne voit qu'à quelques mètres devant nous?
Vous ne voyez qu'à quelques mètres et comme ce brouillard-là semble comme, tu sais, doté d'une vie propre, des fois vous voyez le château. Après ça, groupe, le brouillard revient, repart. Donc c'est pas un brouillard qui se tagne, hein. C'est vraiment un brouillard qui semble, tu sais, palpiter et se déplacer. Donc c'est certaines parties qui s'offrent à vous pour ensuite quelques secondes plus tard disparaître.
Et de tout ce qu'on voit, j'imagine, on ne voit personne.
Non, aucune âme. Rien en vue pour l'instant.
Comme mon Zifa me faisait pas mal lire de livres un petit peu sur la ténèbre et tout ça, est-ce qu'il y aurait eu moyen que j'aurais pu lire un livre sur les ensorcellements comme ça ou essayer de comprendre ce qui se passe hein, quand je me retrouve face à ça par rapport à ce que j'aurais pu lire?
Écoute, on pourrait faire un jet de connaissances.
Ouais, c'est ça.
Sous-mental. T'as quand même 7.
Ouais.
Donc, tu vas me faire ton jet à 70.
OK. C'est en 31.
Écoute, c'est la soirée de Kenan.
Je l'ai dit tout à l'heure.
Une autre réussite totale.
Une chance, t'es pas resté dans chaloupe.
Les dés sont des serviteurs, en fait. Ils font ce que je leur dis.
Ouais, Bobo est certain.
Mais mon idée derrière, en fait, c'était d'arriver à savoir ce qui se passe pour essayer de trouver, en fait, de savoir des fois dans les livres d'ensorcellement comme ça, peut-être savoir comment arrêter le maléfice ou ce genre de truc.
Écoute, t'as réussi ton jet, c'est une réussite. Donc, tu sais que tu sais pas, dans le sens que. Est-ce que tu vois autour de toi? Écoute, il y a quand même un bon indice, là. C'est pas issu de la ténèbre. Rien de ce que t'as lu t'incite à croire que c'est un phénomène relié à la ténèbre. La ténèbre, vous allez chercher vos pouvoirs dans une autre dimension, ce qui est très dangereux. La manipulation de la ténèbre, hein, je vous rappelle que si vous faites un échec critique, un fiasco, mais il se passe quelque chose, il y a même c'est vous pouvez payer un genre de prix, dans le sens que vous pouvez vieillir, les yeux changent de couleur, une mèche de cheveux blanche. Il y a un paquet de trucs qui peut arriver lorsque vous faites des fiascos en utilisant la ténèbre. Donc, c'est à vos risques et périls. Mais non, ici, il semble pas avoir là, vraiment un lien avec la ténèbre. Kenan, ça répond quand même à ta question. La ténèbre, ici, n'est pas en jeu. Selon toi, c'est sûr que t'as pas tout lu, mais de tes connaissances, t'es à peu près certain qu'il ne s'agit pas de la ténèbre.
Super. Ouais, je suis bien avancé.
On voit Karl avancer un peu. Et là, à un moment donné, vous le voyez comme disparaître avec ce brouillard qui se déplace. À un moment donné, vous voyez sa silhouette complètement disparaître et réapparaître au bout de quelques secondes. Vous comprenez que si vous restez pas collé, mais il y a des bonnes chances que vous vous perdez de vue dans tout ça.
Et fier de ce savoir, je vais en faire part à tout le monde. Vaut mieux qu'on reste prêt dans ce brouillard, on se perd rapidement. Et il y a quelque chose de pas sain ici, c'est extrêmement dangereux. Déjà de la neige près de la côte de Mezzo, c'est du jamais vu, j'imagine.
Mais tu comprends, Solomon, alors que vous êtes prêt, c'est que vous avez perçu ça un peu comme de la neige, hein. C'était comme une neige qui brille au soleil. Mais là, c'est... Écoute, une fois que t'es sur le navire, la Veuve Blanche... Mais il n'y en a pas de neige. Mais cet aspect-là de diamant, là, de petit éclat, là, comme des étoiles dans le brouillard, mais il est là. Mais vous réalisez rapidement que, en fait, ben, c'est pas de la neige. Malgré qu'il fait froid, oui, la température a sans doute chuté, je vous dirais, là, de 5 ou 6 degrés là, en Celsius.
Je vais aller vers le château pour voir la cabine du capitaine Kenning,
fait Karl en se retournant.
Vous venez?
Parfait, Karl. Oui, Karl, mais écoute, on reste tout près les uns les autres.
Tu vois qu'il s'est retourné, puis là, il est comme un peu voûté, comme une position de chasseur. Là, il se redresse là, et vous attend. Soudain, la tempête qui fait rage sur le navire commence à pulser et à enfler. Comme si la tempête elle-même le prenait vie. Là. Sortant du brouillard, vous voyez même des bras là, tentaculaires de vent, de neige ou d'autres choses encore là, s'élancer vers vous. Alors que à date, le phénomène se contentait de s'enrouler autour des voiles, des mâts, des objets. Cette fois-ci, les ombres qui s'abritent dans le brouillard bien, commencent à bouger. Vous voyez des sortes de silhouettes vivement passer dans le brouillard, disparaître, revenir. Là. On sent vraiment une intelligence, mais on voit vraiment là, des tentacules d'ombre se diriger vers vous. Et là, plus promptement, plus agressif aussi. Faites-vous quelque chose.
Je suis sûr. Ouais, moi, je me dirigerais vers Karl. Comme pour pas qu'on se perde les uns les autres. Là,
effectivement, vous êtes comme les quatre ensemble, sauf Karl qui est un petit peu plus à l'avant. Donc le réflexe d'Irid, ça va être de se diriger vers Karl. Solomon, que fais-tu?
Je dis aux autres de presser le pont, on s'en va vers le château, le s'abriter à l'intérieur.
Alors que vous pressez le pont et que vous vous dirigez justement vers l'arrière du navire, Kenan, toi, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, moi je finis par les suivre en dernier dans le groupe, puis je vais sortir mes deux sabres et regarder un petit peu en arrière hein, pour comme protéger un peu l'arrière du groupe là.
En jetant un regard derrière, tu vois que le brouillard se referme et le bastingage et le grappin qui étaient accrochés dessus disparaît dans le brouillard. Et là, tu vois ces espèces de serpents, là, mais vraiment de bonne taille. Là, on parle de pitons là, qui roulent sur le pont, sur le plancher de bois. Mais c'est du brouillard. Mais à l'intérieur, il y a vraiment des ombres noires, comme des veines. Et toujours ce sentiment que qu'est-ce qui habite ce brouillard, Kenan? C'est un mélange de douleur et de haine.
Dos contre dos, je vais presser l'avant-dernier du groupe.
Oui, sans doute que tu vas plus vite. Hein, t'as reculé en voyant ça, en ressentant tout ça. Tu recules jusqu'à heurter Ygritte, là, qui était juste derrière toi. Solomon. Tu vas heurter Solomon. Alors que toi, Ygritte, t'arrives tout près de Karl. Tu vois deux de ses tentacules blancs. Mais vraiment veiné de noir à l'intérieur, se précipiter sur Karl, alors qu'il ne les voit pas.
Ben, je vais lui crier de faire attention.
Écoute, tu lui cries, mais lorsque tu cries, il se retourne vers toi. Tu sais, avec un. Et tu vois, tu sais, toute l'interrogation dans son regard. Et à ce moment-là, ben, c'est un geste qui lui est fatal. Les deux tentacules le heurtent. Et un vient comme s'enrouler autour de sa taille et le deuxième vient prendre sa jambe. Aussitôt, Karl, écoute, de sa bouche explose un cri là, de douleur comme vous avez jamais entendu. Il hurle et son corps semble se raidir comme s'il était figé par le froid.
Je pense que Ygritte va essayer comme de, je sais pas, de l'attraper pour leur descendre, de le tirer de là.
Écoute, ses deux bras sont libres, hein, mais
ouais, c'est ça, de l'attraper par un bras ou je sais pas quoi là.
Très bien. Aussitôt que tu agrippes le bras, tu sens la froideur de son corps. C'est vraiment anormal. Solomon, que fais-tu, toi?
Comme Ygritte, je vais aller agripper son deuxième bras et puis essayer de tirer moi aussi. J'ai pas d'armes, j'ai rien, je suis main nue de toute façon. Fait que tout ce que je peux faire, c'est tenter de le sauver en tirant.
Et Kenan, toi qui as tes deux armes en main, que fais-tu? Alors que tu vois Solomon agripper un bras et Ygritte l'autre. Du pauvre Karl.
Bah, j'ai pas grand chose à faire de plus, je vais me rapprocher.
Il va courir vers la cabine.
Courir vers la cabine. Ouais, c'est vrai, je pourrais courir vers la cabine pour essayer d'ouvrir plus vite, mais.
Ouais, c'est comme le salon des films d'horreur, là, il rentre puis il barre la porte.
C'est ça.
Mais écoutez, c'est mieux que je pensais. Moi, je pensais qu'il allait me dire je tente de séduire, amadouer les tentacules. Le froid.
Écoute, je pourrais essayer d'aller couper les tentacules avec mes deux épées, quoi.
Allons-y.
Extirper de là.
Écoute, je fais pas lancer de jet. Parce que aussitôt que tu vas trancher un des tentacules, ben tu vois que ta lame passe carrément à travers. Tu vois que t'as comme. Tu sais, je vous parlais de veines noirâtres à l'intérieur de du brouillard. Tu vois que t'as tranché ces veines noires-là. Mais aussitôt, elles vont se ressouder. Et c'est comme si tu n'avais jamais frappé le tentacule. Sage va avoir le même réflexe que toi. Avec son harpon, elle va venir darder plusieurs fois le deuxième tentacule. Vous, toi, Solomon, Ygritte, vous êtes en train de tenter d'estirper... le pauvre Karl de sa fâcheuse situation. On va y aller avec des jets de force, hein? Voir qu'est-ce que ça va donner.
Des ou juste un?
Ben écoute, vous êtes deux. Ça serait peut-être intéressant de vous voir un peu les deux comment ça va. On va peut-être voir Karl tirer d'un bord plus que d'autre. Dans robustesse, la deuxième compétence, c'est puissance musculaire. Et pas la force de Solomon, hein? Tu vas me faire ton jet à 30%, Solomon.
OK.
Alors, Ygritte...
Moi, j'ai 6.
Ouais, tu vas me faire ton jet à 40%. Ouais, ce n'est pas facile.
C'est un échec pour moi.
Oh. Et pour Ygritte, qu'en est-il? C'est un échec, c'est un fiasco. Un échec critique.
Oh non!
Quel maître de justice.
Sadique. On va terminer avec cette dernière scène. Alors que vous vous efforcez de tirer le pauvre Karl, hein, qui est beaucoup plus imposant que vous, hein, et qui n'arrive pas à lutter contre la force de ses deux tentacules. Vous voyez sa peau, ok, surtout autour des endroits où les tentacules sont venus s'accrocher, mais ça s'accentue quand même sur tout son corps. Vous voyez sa peau craquelée et s'effriter, puis se détacher comme des flocons de neige et s'envoler comme dans un tourbillon et qui s'agite et qui s'en va vers les tentacules. Et vous voyez cette chair se coller à ces troncs de brouillard et devenir chair. Et lentement, dans le brouillard, vous voyez ces lignes noires, ces veines, commencer à prendre des formes, à former des corps humanoïdes et prendre vie. Et bientôt, au lieu d'être des tentacules qui s'enroulent autour de la taille du pauvre Carl, ses deux bras, comme si un homme l'agrippait à bras de corps. Et autour de sa jambe, c'est un corps plus, je vous dirais, féminin qui s'accroche à sa jambe. Et vous voyez tout ce réseau de veines noires, de branches noires, comme pulser et prendre vie à mesure que la peau, la chair, les muscles de Carl partent en flocons, en lambeaux pour s'envoler et venir se coller à ses deux corps qui s'agrippent à lui et semblent se substanter de la vie même de Carl. Sa chair devient leur chair. Et vous voyez la naissance de deux choses innommables prendre vie.
Je crois que c'est le moment où on court.
Ben non, c'est poétique, là, on reste, c'est beau.